Si vous avez vos Bibles, et si vous, je vous invite à ouvrir sur la première aux Corinthiens, chapitre 10 et verset 6, où nous lisons un petit verset qui est très utile pour nous. 1 Corinthiens 10, chapitre 6, donc, bon, on le sait, il y a plein de recommandations pour l'église de Corinthe que donne Paul là. Mais là, il y a une petite phrase qu'on peut retenir et qui dit ceci. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme nous en avons eu. Ces choses, ben, il parle de toute l'histoire d'Israël. Tout ce qui s'est passé dans la nouvelle, dans l'ancienne alliance, pardon, et tout ce qui concerne pour nous l'Ancien Testament. Toutes ces histoires qui semblent anciennes. Mais là, remarquez ce qu'écrit l'apôtre Paul. Ces choses sont arrivées. Ce ne sont pas seulement des récits qui sont racontés, des histoires qui seraient comme des mythes ou comme des histoires qui n'auraient pas de vrai fondement. Mais là, il dit, ces choses sont arrivées. C'est des choses qui sont historiques, qui se sont vraiment, réellement passées. Et quand on lit l'Ancien Testament, tous ces textes, ce sont des récits de choses qui se sont vraiment passées. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenons pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, etc. Au verset 10, il dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. » Avec ce « nos pères », et il s'adresse à une église majoritairement composée de personnes qui venaient, comme on dit, des païens, et puis avec ce « nos pères », il les fait associer en quelque sorte à l'histoire d'Israël. Ils sont un peuple qui a été adopté dans la famille de Dieu. Et ça souligne le fait que tous ces textes, on doit vraiment les prendre à cœur. Alors nous allons commencer une série sur l'histoire de Salomon dans le premier livre des rois. Ces histoires, on va le voir, il y a des choses qui sont très en détail, il y a des choses qui sont des passages entiers où on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Tout cela est fait pour nous instruire. Ce sont des choses qui se sont vraiment passées et donc il faut bien les comprendre pour ne pas agir, pour agir bien quand ils ont agi bien et pour agir mal, pour ne pas agir mal comme ils ont agi mal. Dieu veut notre bonheur à tous et à chacun et tout ceci est fait pour nous instruire. Alors on va prendre juste le livre qui est le chapitre qui est avant le premier livre des rois. C'est le livre de Samuel et là on va lire le dernier chapitre de Samuel et la semaine prochaine on commencera le chapitre qui suit, le chapitre des rois. Et donc à travers ce dernier chapitre de Samuel, ça va nous faire en quelque sorte une introduction. Chapitre 24. De Samuel 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant: « Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. je lis dans la seconde 21. Le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache ainsi combien il compte d'individus. » Que je sache combien il compte d'individus. Job dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, que mon Seigneur puisse le voir de ses yeux. Mais pourquoi, mon Seigneur le roi, veut-il faire cela ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab et au chef de l'armée, et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain, installèrent leur camp à Aroer, à droite de la ville qui se trouvait au milieu de la vallée de Gad et près de Jéhazer. Ils se rendirent à Galad et dans la région de Tsatim et Otsi. Ils se rendirent à Danran, dans Rajan et dans les environs de Sidon. Ils se rendirent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Et ils terminèrent par le sud de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants, aptes au combat, et 500 000 en Juda. David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel avait été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David. « Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel, je t'impose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et informa en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Fais maintenant ton choix et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis ce matin-là jusqu'au moment fixé, de Dan à Beersheba. 70 000 hommes moururent parmi le peuple. L'ange tendait la main contre Jérusalem pour y semer la dévastation lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange chargé de détruire le peuple, « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se trouvait alors près de l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel, « Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. » Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit, « Monte à l'aire de battage d'Aravna le Jébusien et érige-y un autel à l'honneur de l'Éternel. » David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda en bas, il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda, « Pourquoi, mon seigneur le roi, vient-il me trouver, moi, son serviteur ?» David répondit, « C'est pour t'acheter ton aire de battage afin d'y construire un autel à l'honneur de l'Éternel. Ainsi, le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'aire, qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, Tu peux prendre les bœufs pour l'holocauste et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, roi. Puis Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu t'accorde sa faveur. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je ne t'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un autel à l'honneur de l'Éternel et il y offrit des holocaustes, des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Seigneur, c'est ta parole devant laquelle nous sommes, que nous avons lu devant le texte devant lequel nos yeux sont plongés, permet qu'elle soit notre nourriture ce matin et veuille m'aider, Seigneur, et aider nos frères et sœurs, mes frères et sœurs, pour que tu nous parles. Dans le nom de Jésus, amen. Donc, j'ai mis trois parties dans le message. Le roi et son peuple, une première partie. Ensuite, on va s'intéresser à la faute de David et à la grâce de Dieu que nous avons vue. Alors, nous venons, le roi et son peuple, à quelle époque on se situe? La période du long apprentissage, j'avais pris le, si on faisait toute une frise de l'histoire de l'humanité, il y a une période où l'humanité a appris à travers l'histoire d'Israël qu'elle avait besoin d'être sauvée et du type de sauveur dont elle avait besoin. Nous sommes dans le royaume d'Israël, qui est l'accomplissement de la promesse faite à, que Dieu avait faite à Abraham, Isaac, Jacob, par rapport à la postérité d'Abraham et par rapport à une terre que Dieu voulait leur donner. Et les descendants d'Abraham étaient devenus un peuple nombreux en Égypte, puis sous la conduite de Moïse, Dieu les avait fait sortir. Dieu leur avait donné leur loi. Dieu s'était présenté à eux comme leur Dieu. Et il avait dit qu'il serait leur peuple. Et Dieu était présent au milieu de son peuple à travers le tabernacle qui avait été dressé. Dieu était au milieu d'eux. Ensuite, suit la période des juges, qui est une période un petit peu trouble. C'est le livre de Samuel et le dernier des juges. Pendant 400 ans, Dieu avait dirigé son peuple à travers des personnes qui avaient une autorité pour à la fois ramener le peuple à Dieu et s'occuper de juger les problèmes qu'il pouvait avoir également. Mais chaque fois qu'un juge mourait, le peuple abandonnait Dieu et se retrouvait dominé par ses ennemis et il fallait de nouveau que Dieu envoie des difficultés au peuple pour qu'il se retourne vers Dieu et que Dieu envoie un juge pour les délivrer. Et il y a une phrase qui rythme tout le livre des juges. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Samuel était le dernier juge et étant devenu vieux, le peuple avait réclamé un roi comme les autres nations. C'est important. Un roi comme les autres nations. Et Samuel avait été affecté de cela parce que c'était Dieu qui régnait sur Israël. Et Dieu avait dit à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Le premier des rois désigné par Dieu était Saül, un homme grand, beau et fort. C'était un roi comme les autres nations. Mais à un moment donné, Saül avait préféré écouter la voix du peuple que écouter la voix de Dieu. Et c'est là qu'est intervenu David, le roi David que nous trouvons dans notre texte, le second roi d'Israël, donné par Dieu à la place de Saül qui avait failli. David était un simple pécheur. Dieu l'avait choisi parce qu'il lui plaisait à lui. Et pour expliquer son choix au prophète Samuel, il lui avait dit « L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et avec l'aide de Dieu et d'une fidèle armée, il était parvenu à mettre Israël à l'abri de ses ennemis. Sa vie avait été mouvementée, dangereuse. Il avait traversé beaucoup de dangers, mené beaucoup de batailles. Et à travers tout cela, il s'était appuyé sur son Dieu. Il avait expérimenté vraiment la fidélité de Dieu à travers toutes ses épreuves. Et il était resté attaché à Dieu jusqu'au bout. Et Dieu l'avait protégé. On va lire un texte de Samuel qui résume cela, c'est quelques chapitres avant, c'est le chapitre 7, on va lire une bonne partie du chapitre 7, qui va reprendre un petit peu tout ce que je vous ai partagé. Concernant le roi David. Lorsque le roi habita dans sa maison, que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à l'un des chefs d'Israël que j'avais ordonné de paître sur mon peuple Israël, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité par les méchants qui l'opprimaient comme auparavant, comme à l'époque où j'avais établi les juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Je l'affermirai pour toujours. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de David, ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Quelle belle promesse! Quelle belle promesse avons-nous là? Un peuple et son roi, un roi et son peuple. Mais notre texte a commencé avec un verset et une phrase que l'on ne pensait plus jamais retrouver. 1 Samuel 24, 1 commence, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Pourquoi? Cette phrase, on l'a trouvée quand ils étaient dans le désert, quand le peuple était rebelle, quand il y avait des fléaux qui arrivaient pour redresser le peuple. On avait l'habitude de trouver cette phrase à ce moment-là avec Moïse dans le désert. On avait retrouvé l'habitude de cette phrase quand, du temps des juges. Pourquoi est-ce qu'on la retrouve à ce moment-là? Il excita David contre eux en disant, vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Qui est à l'origine du malheur décrit dans notre récit? Le peuple a mis Dieu en colère. Il a commis un péché qu'il n'est pas nommé, mais on peut deviner ce que c'est ce péché qui est le péché typique. C'est abandonner Dieu, abandonner la fidélité envers Dieu, se détourner son cœur de lui, oublier Dieu. Le peuple était en train d'oublier Dieu. Et le roi n'a pas fait son travail de roi pour le garder, pour le préserver. Il le gardait certes des ennemis intérieurs, mais là, il y avait des ennemis extérieurs, mais là, il y avait un ennemi intérieur. Et le roi, lui aussi, semble associé à tout cela, puisque Satan entre en action pour mettre en tête à David l'idée de faire un ressassement. Le peuple de Dieu et son roi sont liés ensemble, nous apprend ce passage. Quelle est la faute de David? Quelle est la faute de David? Il a fait un recensement pour connaître le nombre de soldats qui étaient disponibles. Il y avait deux recensements identiques qui ont été faits, ordonnés par Dieu, un à la sortie d'Égypte et un à l'entrée dans le pays de Canaan, qui donnait une population de 600 000 hommes. Et là, à l'entrée comme à la sortie du désert. Et là, vous avez vu les chiffres qui sont annoncés, c'est le double. C'est plus du double. Dieu avait promis que la prospérité et la sécurité accompagneraient le peuple s'il était fidèle à son Dieu. Il n'y avait pas de question à se poser. Le peuple de Dieu appartenait à Dieu et non au roi. Et on a vu David fait le recensement du peuple afin que je connaisse le montant, à combien s'élève le nombre d'hommes. La faute de David, c'est certainement l'orgueil. Peut-être vous êtes, nous sommes nous demandés, nous aussi, dans notre vie, tout à coup, ben, là, combien j'ai? Je vais faire le total de tout mon capital, de tous mes avoirs, et puis on fait, ah ben là, tout le compte d'épargne, j'ai tant, et ma voiture est votant, et ma maison est votant. On peut avoir des idées, on peut comprendre ce qui est passé par l'esprit du roi David, comment Satan est venu le tenter. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. Luc chapitre 12, verset 19. S'appuyer sur son armée plutôt que sur Dieu. Voilà bien un risque qui tentait, qui était là devant le peuple. Pourtant, David avait expérimenté que rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Jonathan, son meilleur ami, avait expérimenté ça quand il était tout petit, quand il fuyait devant Saül. 1 Samuel 14, chapitre 6. L'orgueil, s'appuyer sur son armée plutôt que sur Dieu. L'entêtement. David n'avait pas écouté Joab, qui n'était pas, pourtant, ici, il passe pour un homme beaucoup plus lucide que David, et pourtant Joab n'était pas un chrétien, un croyant, un modèle d'homme spirituel. On dirait aujourd'hui c'était un chrétien plutôt charnel, hein. Ce qui visait surtout là-dedans et ce qu'il voulait conserver par-dessus tout, c'était sa place de chef de l'armée. Il voulait être chef, il aimait cela. Mais là, on voit que c'est lui qui a de la sagesse. David s'entête. Quand nous n'écoutons pas les conseils de personne, quand on continue notre propre chemin, quand on n'écoute pas, même ce que, des fois, à Dieu, à moi-même, nos ennemis pour nous parler, hein, pour nous ramener à la raison, mais on n'écoute rien. La faute de David, l'orgueil, la suffisance, l'entêtement. Et la sanction divine est tombée. À l'écoute des chiffres ramenés par Joab, le chef de l'armée, David réalise l'ampleur de sa faute. Les dimensions du pays ont quasiment atteint celles qu'avait annoncé Moïse dans le désert. Les promesses que Dieu avait faites, la population a doublé. L'armée de l'Éternel est vraiment immense. Mais il est trop tard. Le mal est fait. David se retrouve devant un choix. Trois punitions lui sont proposées. La famine, la défaite militaire ou la peste. Toutes les punitions concernent le pays entier, pas seulement lui en tant que roi. « Je te frapperai, » dit notre texte. « Je te frapperai d'un de ces trois fléaux. » Et c'est bien le roi et le peuple qui ont été frappés ensemble. Ils sont indissociables. Alors bien sûr, on n'est pas dans enfin pas partie du gouvernement de notre pays, on n'a pas peut-être pas des immenses responsabilités, mais on fait tous partie d'une famille, d'une église, d'une équipe dans le travail, et que nous ayons des responsabilités ou que nous n'en ayons pas, nous le savons, nous, toute proportion gardée, nous sommes associés à ce qui se passe dans notre famille, dans notre église, dans notre travail ou dans tout autre groupe auquel nous faisons partie. Nous comprenons que nos fautes peuvent impacter les autres et que les fautes des autres peuvent nous impacter à nous. Les conséquences de nos fautes sont aussi à la mesure des conséquences, des responsabilités, pardon, que Dieu nous a confiées. La peste, c'est le moyen qu'a choisi David, qui était expérimenté et qui savait qu'il valait mieux avoir à Dieu qu'avoir affaire aux hommes. Et ça, c'est une leçon pour nous ce matin. Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'avoir affaire aux hommes. Quand nous sommes devant une difficulté comme ça, il vaut mieux aller carrément à Dieu pour trouver le salut. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu maintenant. Dieu est compatissant. Le fléau commence, la peste commence, et Dieu dit à l'ange, arrête. Et le temps là se trouve suspendu. L'ange est là, prêt à frapper Jérusalem. Et c'est un petit peu sur une hauteur comme ça que se situe l'air d'Aravna là. Les airs étaient un petit peu sur les hauteurs pour qu'il y ait du vent, pour que ça fonctionne, et c'est le temps de la moisson. Dieu dit à l'ange, arrête. Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Il est patient, il est lent à la colère, et quand sa colère s'enflamme, il est toujours compatissant, et il retient son bras. Comment cela est-il possible? Nous le savons par Jésus-Christ. Dieu est compatissant et Dieu demande un sacrifice de communion. La seule chose qui puisse faire obstacle à ce jugement. Et on sait ce que c'est que le jugement par les épidémies. On en a vécu une il n'y a pas longtemps, nous autres, on s'est rappelé ce que c'était. S'il y a 70 000 hommes qui sont morts, combien il y a eu d'enfants, combien il y a eu de femmes, combien il y a eu de malades. S'éloigner de Dieu, se priver de la source, de la vie et de l'amour, c'est terrible. Dieu préfère envoyer un châtiment que de voir son peuple s'éloigner de lui définitivement. Et il nous ramène à la communion. Et Dieu demande un sacrifice de communion, de retrouver enfin la communion avec lui. David obéit de cœur. Au lieu désigné, David va trouver tout ce qu'il fallait. Il va trouver le lieu, il va trouver un homme qui est un Jébusien. C'est formidable de voir cet homme qui n'est même pas un enfant d'Israël, mais qui est tout, son cœur est tout acquis au roi. Et alors qu'il avait été un peuple vaincu et par David lui-même. Le bœuf est là, le lieu est là, le bœuf est là, il y a l'attirail pour écraser les épis qui sont là pour faire le feu, pour servir de bois, tout est prêt pour faire l'holocauste, pour faire le sacrifice de communion. Mais Dieu, mais David, pardon, veut payer le sacrifice. David est un homme qui est authentique, il n'est pas hypocrite. Il fait les choses vraiment avec son cœur. Et là, il avait vraiment le désir d'obéir à Dieu. Un autre verset fort de notre texte est celui-ci. David monta dans l'air suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Le roi et le peuple vont retrouver là, à travers ce sacrifice, la communion avec Dieu qui certainement faisait défaut. La communion de cœur avec Dieu. Et aujourd'hui, quand on lit le mot sacrifice dans l'ancienne alliance, on pense tout de suite à Jésus-Christ qui est notre agneau à nous. Notre agneau de communion. Si nous venons à Dieu en invoquant le nom de Jésus, alors que, comme David, nous ayons toujours, que ce soit toujours avec un cœur entièrement sincère, parce que nous le savons, Jésus non plus n'aime pas les hypocrites comme David ne les aimait pas. David obéit de cœur. Dieu est un Dieu de grâce. Alors pour conclure et nous préparer à la suite du texte, on voit que David n'a pas été un roi suffisant pour le peuple. Cette terrible phrase du verset du chapitre qui précède le livre des rois qui va suivre est tellement claire. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. David n'a pas été suffisant. Peut-être que malgré les apparences, nous aussi, notre communion avec Dieu, qui est intime, qui est personnelle, est en souffrance. Ne présumons pas de notre spiritualité. Mais si David n'avait pas été un roi suffisant pour garder le peuple, Jésus-Christ, nous le savons, est le roi parfait pour nous garder, nous. David est souverain, Dieu, pardon, est souverain, mais nous sommes tous participants. On voit la souveraineté de Dieu partout dans ce texte. C'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui tient les cartes en main. Nous avons une belle illustration dans l'actualité, quand le président Trump s'adresse à l'autre président Zelensky, qui lui dit, mais c'est pas toi qui as les cartes en main. On sait que c'est pas Trump non plus qui a les cartes en main. C'est Dieu qui a toujours, lui qui a toujours les cartes en main. Et Dieu a les cartes en main. Nous ne les avons pas. Dieu est souverain. Mais nous sommes néanmoins participants. Notre réponse à Dieu compte. La réponse de David à Dieu a compté ce jour-là. Il a entendu ce que disait le prophète et il a répondu positivement. David a agi conformément à ce que l'Éternel avait demandé. La réponse positive de David à Dieu a eu un impact positif. Et notre réponse à nous, à Dieu, a toujours un impact. La réponse de Jésus-Christ est un modèle d'obéissance plus grand pour nous que la réponse qu'a eu David là. Notre réponse à Dieu compte. Nous sommes participants, pleinement participants de son plan, même s'il est absolument souverain. Là, David, son obéissance a permis que le fléau s'arrête et que la communion puisse être retrouvée avec Dieu. Notre obéissance à Dieu, là où nous en sommes, compte. Saisissons la grâce de Dieu. Par Jésus-Christ, Dieu pourvoit au roi parfait dont nous avons besoin. Par Jésus-Christ, Dieu pourvoit au sacrifice parfait dont nous avons besoin. Et par Jésus-Christ, Dieu pourvoit à cette personne pour nous approcher de Dieu lorsque nous avons besoin. David était en chair et en os. Jésus-Christ est le roi aussi, en chair et en os. Nous avons fêté sa résurrection. Il est sorti du tombeau. Alors, je ne sais pas si nous serons prêts pour écouter la suite du récit. En tout cas, souvenons-nous de cette grâce de Dieu qui accompagne toujours son châtiment lorsque nous en avons besoin. Certes, le châtiment est là, mais la grâce de Dieu est là aussi. Et notre réponse à cette grâce de Dieu est importante. Il faut la saisir. Et cette communion avec Dieu authentique de notre cœur est importante, elle est précieuse. Et Dieu y tient par-dessus tout. Et c'est notre vie, c'est la promesse de notre vie présente, de notre bonheur ici-bas, la promesse de notre vie éternelle est dans cette relation que nous entretenons par Dieu, avec Dieu, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, amen, frères et sœurs. Bon courage à chacun. Voilà. Nous avons un roi, un David bien plus grand que ce que le peuple d'alors. Oui, Seigneur, merci pour Jésus-Christ. Merci parce qu'il est ce roi dont nous avions besoin pour nous garder. Il est toujours et absolument fidèle. Et si nous sommes fidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Tu connais, Seigneur, nos faux pas, tu connais notre limite, tu connais notre communion avec toi qui s'éteint et qui s'étiole si facilement lorsque tout va bien. Lorsque tout semble aller bien, lorsque les victoires semblent remportées, lorsque on pense, voilà, on est déjà arrivé. Et à ce moment-là, nous sommes dans le danger, comme David et le peuple, de te mettre de côté, de t'oublier et de décider de marcher par nos propres forces, par notre propre armée, par nos propres bénédictions que tu nous as données, nous appuyant sur les bénédictions au lieu de nous appuyer sur celui qui les donne. Merci Seigneur de nous fortifier, de nous bénir, de nous relever, de rétablir cette communion, peut-être on a besoin, j'en ai besoin, peut-être mes frères ou sœurs aussi, on a besoin de retrouver cette communion authentique que nous avons connue avec toi. Et merci parce qu'en Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher pour la demander et l'obtenir. Amen.
Amen.